Radio Kapi.
Le journal Noéla Luzitu Kabambi.
La situation humanitaire reste dégradée dans le groupement de Bukombo, chefferie de Wito, au territoire de Rutshuru au nord Kivu. Cela fait suite aux affrontements en novembre dernier. Les rebelles du M23 au Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour le changement CMC. Une maladie encore inconnue a fait près de 60 morts en 2 semaines dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Parmi les symptômes de cette maladie, il y a la fièvre et l'anémie. Et les enfants sont les plus affectés. Des échantillons sont en train d'être prélevés et envoyés à l'INRB ici à Kinshasa pour des analyses approfondies. Isabelle Monga est l'invitée de ce journal. Elle est la coordonnatrice du Réseau national des associations des femmes rurales RENAFER. Bonjour à tous. Au nord Kivu, la situation humanitaire reste dégradée dans le groupement de Bukombo, chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru. Cela fait suite aux affrontements et a opposé en novembre dernier les rebelles du 1-23 au Wazalendo du groupe collectif des mouvements pour le changement CMC. Des milliers de personnes restent en déplacement et plusieurs écoles ont du mal à reprendre les activités scolaires. Bernard Danyangi.
Dure depuis le dernier combat ayant opposé entre le 12 et le 29 novembre dernier le 1-23 aux combattants CMC autour de l'agglomération de Bukombo. Ces combats qui ont été suivis par des opérations de ratissage de la part des rebelles ont poussé des centaines de familles à vider leur village pour se réfugier au centre de Bukombo où elles vivent dans des écoles et autres infrastructures sociales, dit un acteur local de la société civile.
Après leur occupation, les rebelles du M23 avaient appelé tous les habitants de quitter les villages de Machangu, Hurere et rejoindre le centre de Bukombo. C'est là qu'ils se sont réfugiés dans le l'épée Birambizo et épée Twaweza. D'autres dans le centre pastoral de prêtres et familles d'accueil. Le 29 novembre, il y eut d'autres attaques ayant causé 11 blessés et 4 décès parmi les civils. Et donc, la population vit dans la terreur.
Rappelons que les rebelles du 1-23 occupent le centre de Bukombo depuis le 13 novembre dernier, mais les combattants Wazalendo qui en avaient été délogés sont toujours dans les environs, ce qui rend la situation très volatile dans la zone. Goma, Bernardin Agui, Radio Kapi.
Toujours au nord Kivu, les combats se poursuivent pour la deuxième journée consécutive ce mardi entre les hommes du 1-23 soutenus par le Rwanda et les FARDC dans les villages de Hutu et Ematembe situés à environ 60 km de Lubero centre. Selon des sources locales, ces affrontements interviennent après une accalmie hier soir dans les villages de Kasege, Alimbongo et leurs environs. L'armée affirme maintenir ses positions initiales. L'Union européenne annonce la mise à disposition des FARDC d'un montant estimé à 20 millions de dollars destiné aux éléments de la 31e brigade basée à Kindu-Maniema. À travers un communiqué de presse publié ce mardi, cette organisation indique que cet argent servira au renforcement des capacités des membres de cette unité dans la sécurisation du territoire national et la protection de la population. Ronelyne Tibonera pour les détails.
C'est sur demande des autorités de la République démocratique du Congo que l'Union européenne et ses États membres ont décidé de lancer cette assistance aux forces armées de notre pays. Ce montant est débloqué dans le cadre du programme de la Facilité européenne pour la paix. Grâce à ces soutiens, l'Union européenne fournira des équipements individuels et collectifs non létaux pour améliorer les performances des éléments de la 31e brigade et procédera également à la réhabilitation de certaines infrastructures de leur casernement. Cette structure annonce un ensemble de mesures et des stratégies pour que ces fonds servent à la promotion et au respect des droits humains et des droits internationaux humanitaires au sein des forces concernées, révèle les communiqués. Afin de s'assurer de la situation sur le terrain, le représentant de l'Union européenne devra se rendre ce mardi à Kindu en compagnie du ministre national de communication Patrick Muyaya pour visiter les quartiers généraux de la 31e brigade de FARDC, une brigade qui bénéficie depuis 10 ans de la formation dispensée par les instructeurs belges, la Belgique étant l'un des pays membres de l'Union européenne. L'allocation de ces fonds intervient alors que la RDC traverse une situation sécuritaire volatile dans sa partie orientale. Depuis 2 ans, le FARDC lutte contre la rébellion du M23. Ce conflit a été à la base d'une crise humanitaire sans précédent. Selon OCHA, le Nord Kivu comptait au mois de septembre 2024 plus de 2,5 millions de déplacés internes.
Dans le Haut-Katanga, moins d'une semaine après la condamnation du colonel Ange-Félix Mangwala dans le dossier de l'enlèvement d'un séminariste au grand séminaire de Lubumbashi, la commission provinciale Justice et Paix salue le verdict de la Cour militaire du Katanga. Elle l'a fait savoir à travers un communiqué de presse. Tout en reconnaissant le droit des personnes condamnées à interjeter appel selon la loi, elle redoute cependant que cette décision ne soit appliquée à l'instar de beaucoup d'autres rendus en faveur de l'Église catholique qui n'ont connu aucune exécution sur le terrain. Les détails avec Jean Gandou.
Dans son communiqué de presse rendu public ce 1er décembre, la Commission provinciale Justice et Paix se dit d'une part satisfaite du respect des principes d'un procès équitable et d'autre part félicite chaleureusement la Cour militaire du Katanga pour avoir dit le droit. Pour elle, ce jugement est un signal fort pour servir des leçons à tous ceux qui s'aventurent à spolier, à occuper illégalement la concession de Tchamalalé et d'autres concessions de l'Église catholique à Lubumbashi. Cependant, elle se dit préoccupée par l'exécution effective de ce jugement, d'autant plus qu'il en existe d'autres rendus par les cours et tribunaux en faveur de l'Église catholique, mais qui n'ont jamais connu une moindre application. Voilà pourquoi elle demande la démolition des maisons construites sur ce terrain non loti du grand séminaire de Tchamalalé. Tout en encourageant la justice, elle indique qu'elle ne ménagera aucun effort pour dénoncer toute attitude de négligence ou de complaisance dans l'exécution du jugement rendu en faveur de l'Église catholique du Katanga, ou encore toute tentative d'intimidation à son endroit ou à celui du personnel ecclésiastique. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Plus de 60 personnes sont décédées en deux semaines à la suite d'une maladie non encore identifiée qui sévit dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Selon le ministre provincial de la Santé du Kwango qui alerte, les symptômes observés chez les patients incluent fièvre et anémie et les enfants sont les plus affectés. Apollinaire Yumba annonce que le gouvernement provincial a dépêché une équipe d'experts épidémiologistes sur place pour déterminer la nature de cette maladie. L'équipe va notamment prélever les échantillons et les envoyer à l'INRB ici à Kinshasa pour des analyses approfondies. En attendant, le ministre invite la population au respect des règles d'hygiène. Irène Bomaluzolo nous fait le point.
D'après le ministre provincial de la Santé du Kwango, les patients touchés par cette maladie inconnue dans la zone de santé de Panzi présentent des signes cliniques tels que la fièvre, les maux de tête, la toux et la pâleur. Apollinaire Yumba.
Il est signalé une épidémie non encore identifiée dans la zone de santé de Panzi, province du Kwango. Il dit au 25 novembre, la société civile et le médecin, chef de zone de Panzi, ont signalé la perte en vie humaine de 67 personnes. Le gouvernement provincial a dépêché une équipe d'épidémiologistes à Panzi pour évaluer la situation.
Les ministres en charge de la santé du Kwango invitent la population de cette partie du territoire de Kasongolunda à observer les règles d'hygiène pour se protéger contre cette maladie en attendant les investigations.
Nous avons dit à la population d'abord de ne pas paniquer, de limiter les mouvements, les entrées et les sorties de cette zone de santé doivent être limitées, éviter de se saluer en se serrant la main, de laver régulièrement les mains.
Cette information est aussi confirmée par le chef du secteur de Panzi, Alexis Kapenda. Il en appelle à l'implication du gouvernement central pour sauver la population de cette entité. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, toujours pas de plénière pour examiner la motion de défiance déposée contre le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guissaro. Le député national Willy Mishiki dénonce la violation flagrante de la Constitution et du règlement intérieur. Dans une correspondance au nom de 123 députés acquis au changement, l'élu de Walikale menace des sanctions contre le bureau de l'Assemblée nationale pour violation de l'article 235 du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement si celui-ci ne convoque pas la plénière demain mercredi pour statuer sur cette motion. Pour les députés Gary Sakata, aucun député ayant signé cette motion n'a plus le droit de retirer sa signature conformément au règlement intérieur de la Chambre. Michel Kifindangoy.
Introduite depuis vendredi 28 novembre, cette motion de défiance signée par 58 députés vient de réaliser plus de 10 jours sans être examinée, alors que la Constitution et le règlement intérieur accordent seulement 48 heures. Dénonce Willy Mishiki.
Comme la plénière n'a pas été convoquée, nous estimons que notre bureau a violé les règlements intérieurs. Et cela a des conséquences. Il y a des sanctions qui sont prévues, notamment une motion de défiance contre les bureaux. On a donné un ultimatum de 40.
Pendant ces temps, Les députés du MLC et AFDC ont déjà retiré leur signature sur recommandation de leur leader. Parmi les raisons évoquées pour ces désistements, il y a notamment le fait que ces députés n'ont pas reçu le mot d'ordre de leur autorité morale. Pour le député Gary Sakata, ce retrait des signatures va à l'encontre du règlement intérieur de l'Assemblée nationale.
Le règlement intérieur de l'article 235 prévoit que lorsque un député appose sa signature sur une motion pour atteindre donc le 10e, cette signature ne peut plus être ni retirée ni ajoutée.
Il faut noter que cette motion de défiance est à l'initiative de quelques députés de l'UDPS et qu'une fois les signatures sont réduites à moins de 50, la motion sera rejetée par le bureau de l'Assemblée nationale conformément au règlement intérieur.
La commission diocésaine Justice et Paix de l'archidiocèse de Bukavu mène une opération d'identification de la population dans toute la ville. Objectif, maîtriser les effectifs migratoires afin d'asseoir la sécurité dans les trois communes de Bukavu. La CDJP collabore avec tous les services de base sous le leadership du ministère provincial de l'Intérieur. 250 identificateurs recrutés pour cette opération sillonnent les avenues et font du porte-à-porte. Le directeur de la CDJP, Abbé Justin Kunzi, explique au micro de Jean Kassami.
C'est un acte citoyen pour maîtriser un peu les mouvements migratoires dans la ville de Bukavu. Tu vois, les cadres de base et même nos responsables politiques et administratifs ne connaissent pas il y a combien d'habitants dans un quartier, sur une rue, dans une commune. Mais si on ne connaît pas il y a combien d'habitants, comment on peut sécuriser les gens, programmer les services de base, favoriser la cohésion et les maires vivre ensemble, que les gens se connaissent, que les autorités savent qui est dans cette ville de Bukavu. Parce qu'il y a des illustres inconnus qui font des gaffes et qui disparaissent dans les quartiers, ni vus ni connus. Voilà pourquoi pour nous, CDJP, nous croyons que accompagner la mairie et les communes à identifier les habitants paru est très important. 250 personnes sont en train de circuler dans toute la ville de Bukavu depuis 3 jours. C'est la coopération suisse qui a aidé avec un petit logiciel, des petits moyens pour favoriser un peu cette identification.
Province du Tanganyika à présent, le territoire de Moba est essentiellement à vocation agropastorale, mais il regorge aussi d'énormes potentialités touristiques qui nécessitent d'être valorisées, propos tenus hier à la presse par le chef de service local du tourisme. Stéphane Caribou plaide auprès du gouvernement provincial pour la réhabilitation des sites touristiques de Moba. Explication, Paul Amunanga.
Le chef des services du tourisme annonce que tous les sites touristiques sont à l'abandon dans les territoires de Moba. D'après Stéphane Karibou Selenge, son service manque de moyens pour promouvoir le tourisme localement. Il fait savoir qu'il manque des moyens de transport, des moyens de communication et de protection de ces sites. Il souligne qu'à Moba, le seul moyen que détient son service, c'est la taxe sur le tourisme qui est prélevée sur les passagers. Face à cette situation, il demande au gouvernement provincial du Tanganyika de songer à entretenir les sites touristiques de Moba, un secteur qui va attirer des touristes et qui peut aussi générer des recettes, précise-t-il. Stéphane Karibou Selenge énumère quelques sites touristiques de Moba.
Nous avons d'abord la chute d'Engandofane qui alimente Moba en électricité. Nous parlons de site Mpala. C'est là qu'est construit la première mission catholique en RDC qui a déjà réalisé plus de 100 ans. Nous avons le grand séminaire Kirungu. C'est l'une des plus vieilles missions catholique en RDC. Aussi, Siti Kaose, c'est que le premier prêtre congolais a fait ses études à Abbé Stéphane Kaose. C'est un monument. Je supplie au gouvernement provincial de penser à Moba.
Kalemi Pole Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Les Afghanes bannis des universités depuis 2 ans par les autorités talibanes pourraient bientôt ne plus pouvoir aller dans les écoles d'infirmières et des sages-femmes. Le directeur d'une école de santé du centre du pays a confirmé à l'agence France Presse cette information et il dit avoir été informé de cette décision du guide suprême Hibatullah Akundaza lors d'une réunion organisée par le ministère. 35 000 femmes et jeunes filles étudient dans plus de 150 instituts privés et une dizaine d'écoles publiques octroyant un diplôme diplôme en 2 ans d'infirmière, sage-femme, assistant dentaire ou en anesthésie. Le chargé d'affaires britannique pour l'Afghanistan, Robert Dixon, a dénoncé sur X un nouvel affront pour le droit des femmes et surtout une nouvelle restriction à l'accès des femmes et des enfants afghans aux soins. Sachez que le gouvernement taliban, qui a repris le pouvoir en 2021, a multiplié les mesures liberticides à l'encontre des femmes en Afghanistan, seul pays où l'éducation des filles est interdite après le primaire.
L'invité.
Le Réseau national des associations des femmes rurales, RENAFER, a clôturé samedi la formation de ses membres sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière à Kinshasa. Invitée de Radio Okapi, la coordonnatrice de cette structure, Isabelle Monga, explique vouloir inculquer aux participants les stratégies pour gagner les marchés et majorer leur chiffre d'affaires. Elle ajoute que cette session a planté sur plusieurs modules dont les 10 compétences de vie d'un entrepreneur, la technique de création des activités entrepreneuriales, le business model et plan d'affaires, ainsi que la formation d'entreprise et notion des négociations. Isabelle Monga s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Madame Isabelle Monga.
Bonjour.
Le Réseau national des associations des femmes rurales a organisé du 26 au 30 novembre une formation sur l'entrepreneuriat et l'éducation financière. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à organiser ces forums?
Le RENAFER, dans ses objectifs, il doit encadrer les entrepreneurs, les femmes et les jeunes pour les amener à réussir. Donc, les sortir de zéro à héros, des zéros à millionnaires. Nous nous sommes rendus compte que la plupart des entrepreneurs sont dans l'ignorance. Ils travaillent, mais malheureusement, ils ont un problème sur comment gérer leurs entreprises. Disons, ils mélangent les tout. Ils ne savent pas distinguer le capital, qu'est-ce que le bénéfice, ils mélangent les tout. Comment épargner, comment réinvestir. Alors, s'ils sont renforcés en capacité, ils évoluent dans leur business.
Quelles sont les différentes thématiques développées au cours de ces forums?
Il y a l'entrepreneuriat, l'éducation financière et le business plan. Ils ont été formés sur comment élaborer un business plan. Un entrepreneur qui n'est pas en mesure de planifier ses activités a beaucoup de risques. Mais par contre, celui qui connaît ses faiblesses, ses forces, ses concurrents, le marché, là, ça va déjà.
Combien de femmes ou combien d'hommes avez-vous mobilisé pour cette formation?
Oui, ce qui est vrai, dans une formation, on ne peut pas prendre plusieurs personnes du coup. C'est un module qui sera dispensé au fur et à mesure. Là, nous avons juste pris 25 personnes. Il y a 18 femmes et 7 jeunes. Parmi les jeunes, il y a 4 jeunes filles et 4 jeunes garçons.
Alors, quels ont été les critères de choix?
Bon, on a donné la chance à tout le monde parce que dans RENAFER, nous encadrons les personnes qui ont des micro-entreprises et ceux-là qui ont des petites et moyennes entreprises.
Des PME.
Oui, des PME. Donc, nous donnons la chance à tout le monde de se faire former et de formaliser son entreprise.
Vous bénéficiez aussi de l'appui de certains partenaires dans l'organisation de vos activités.
Effectivement, cette formation, nous l'avons organisée en partenariat avec Trias, une ONG belge qui est notre partenaire. Il nous a accompagnés depuis le début de cette année. C'est un appui institutionnel.
Combien de membres des RENAFER déjà formés depuis janvier jusqu'au fin novembre?
Oui, depuis janvier jusqu'au mois de novembre, nous avons formé au moins 150 personnes. À part ça, il y avait aussi d'autres modules comme la route de l'intégration vers le genre. Il y a aussi les jeunes qui ont été formés sur l'intégration. Ils doivent avoir le courage d'occuper les postes de prise de décision.
Avez-vous un petit message à lancer à toutes les femmes congolaises en général et puis à tous les membres d'IRENAFER?
J'encourage toutes les femmes congolaises vu que ce sont elles qui tiennent le ménage actuellement, vu le taux de chômage dans notre pays, ce sont les femmes qui supportent les poids, le coût de leur mari et de leurs enfants. Et allez, si vous allez partout dans chaque domaine d'activité, vous trouvez les femmes. Elles sont là, debout depuis 5 heures du matin. Moi, je les ai toujours appelées comme des lionnes. Je les compare aux lionnes. Ce sont elles qui sont à la chasse. Elles sont à la tête. Elles ne reculent jamais sans avoir attrapé leur proie. J'encourage les femmes congolaises à aller de l'avant.
Madame Isabelle Monga, nous vous disons merci.
Merci d'être venue vers nous, Radio Okapi.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la présentation, c'était Noëlla Luzitu Kabambi. La mise en onde est signée Dieudonné Nyangasa. Un journal coordonné par Élisée Chikota. Je vous retrouve à 16h pour le bulletin d'information sur Radio Okapi.